Restez debout deux secondes. Juste permettez-moi d'être prof de chant pendant 30 secondes. On va tous bailler ensemble du haut en bas, ok? Vous savez qu'un moteur, là, à l'aéroport, ça fait... Nous, on va faire le contraire, ok? Donc, comme si on est en train de bailler du haut en bas, comme le matin. Oh! Comme ça. Ensemble, 3, 4. Oh! Et puis, dans l'inverse. Oh! Ok? Et puis encore... Oh! Si vous baillez, c'est très bien par rapport à l'ouverture de la bouche. C'est parfait. Souriez un tout petit peu, ça change le son. Merci de m'avoir supporté pendant 30 secondes, prof de chant.
Ça, j'oserais jamais faire avec une assemblée comme vous l'avez fait. Donc, vous avez la chance d'avoir un musicien. Il vous fait faire exactement ce qu'il faut. Ça fait le chant que vous venez d'interpréter, ça fait une très grosse différence. J'ai fait écouter votre pasteur Philippe pour qu'il se rende compte. Du coup, vous êtes présent, vous chantez. Et puis, l'équipe est là, en quelque sorte, pour vous soutenir. Vous savez, ce problème qu'on a entre les professionnels qui font de la musique et l'assemblée qui chante, on l'a dans toutes les traditions. Dans la tradition réformée, on sait bien ce que c'est l'orgue qui chante, qui fait la musique, puis les gens courent derrière, on ne sait pas très bien si on les entend. Mais vous avez aussi ce problème-là avec des bons musiciens, puis une assemblée qui court derrière. L'objectif, je le redis comme théologien que je suis, c'est la communauté qui célèbre. C'est vous qui célébrez. Amen. Les musiciens sont là pour vous aider à louer le Seigneur. Amen. Et ça, en radio, je vous assure qu'on l'entend. C'est pour ça que le petit job qu'on a maintenant, il est très important. Donc je vous souhaite, on n'a plus le temps maintenant de faire une nouvelle répétition, vous avez compris la consigne. Prenez du plaisir. Suivez l'équipe. Vous avez des très bons musiciens, suivez-les. Et je suis sûr que le résultat sera magnifique. Magnifique, ça veut dire, on a une heure ensemble, on prend plaisir à célébrer, à écouter la parole, et on associe aussi ceux et celles qui, ce matin, sont avec nous, soit sur la FM, soit sur Internet, à l'étranger ou en Suisse, et puis ceux qui nous réécouteront, comme vous le savez, demain, après-demain, d'une façon ou d'une autre. Voilà, je me réjouis d'être là, je vous salue au nom de l'équipe. Vous pouvez vous asseoir, hein, je vous vois tous debout, là. Je vous salue au nom de l'équipe de MediaPro. MediaPro, c'est le département protestant qui s'occupe de la présence des églises réformées dans les médias, radio, télévision, agences de presse et Internet. Mais en radio, nous avons un petit plus, puisque nous avons un partenariat, vous le savez, mais j'aime bien le redire, avec la FRAE, qui soutient notre présence à la radio par le job de Gabrielle de Sarzan, ma collègue journaliste, qui est maintenant une des principales responsables, d'ailleurs, de nos émissions de radio. Alors, Gabrielle, elle n'est pas là ce matin. Pourquoi ? Parce qu'elle a tellement de jobs le dimanche en présentant le magazine le soir que je lui ai dit, tu fais plus les cultes, autrement, tu n'as plus aucun dimanche pour toi. Donc, c'est pour ça que vous ne la verrez pas, Gabrielle. Mais voilà, elle fait partie de notre équipe et elle est le signe du soutien de la famille évangélique à notre présence protestante dans les médias. Voilà, je n'ai pas le temps de faire un grand discours parce qu'on a encore une petite minute. Je vous souhaite un beau culte. Je vous invite dans les quelques instants qui vous restent à vous recueillir pour accueillir ceux et celles qui vont se joindre à nous, cette espèce de communauté virtuelle, mais très présente. Vous savez, quand on écoute le culte radio, on y est, hein, on est avec vous. Accueillons-les pendant ces quelques secondes qui nous restent et à tout à l'heure et bon culte.
Sébastien Bach, un petit coup d'œil sur le programme tout à l'heure d'Espace 2 à 11h. Babel vous donne rendez-vous avec l'écrivain et compositeur Michel Petrosian qui nous fait découvrir la musicalité des textes sacrés, une proposition de Camus. Et ce soir à 19h sur la première, le magazine Haute Fréquence vous invite à découvrir la zen attitude qui s'invite dans les églises de Suisse romande. Mathias Wertz s'est penché sur ces nouvelles formes de spiritualité. C'est ce soir à 19h sur la première. Voilà, cette célébration prend fin. Merci aux personnes qui ont permis la réalisation de cette messe à mes côtés. Éric Sourgy à la technique, Bastien Mouclion, régie à Lausanne, Catherine Cudry, notre assistante de production, Marie-Estelle Perrin pour la diffusion des ondes web, à la production Grégory Roth et pour le commentaire Carole Pilk. Merci à vous qui nous suivez fidèlement. Et maintenant, nous adressons de fraternelles salutations aux paroissiens réformés réunis pour le culte du temple de Mérin, près de Genève, à Mérin où l'on vous retrouve, Michel Pecher. Bonjour et bon dimanche.
Merci, Carole. Merci pour la promotion de nos émissions à Christ Religion. Merci pour la célébration de la messe. Le prochain dimanche, numéro 5 de cette offre culturelle, l'espace de nous enchaînons donc avec le culte. Non, sans vous saluer, Carole, très cordialement, fraternellement, vous l'avez dit, on peut aussi essayer de dire sororellement, je ne sais pas si c'est très français, mais on comprend. En vous souhaitant à tous un bon dimanche vincent, bienvenue à ceux et celles qui nous rejoignent à l'écoute d'Espace 2 en modulation de fréquence sur DAB ou sur vous.
RTS Religion, Michel Cocher.
Alors pour deux dimanches consécutifs, nous sommes les hôtes de l'église évangélique de Mérin, dans la banlieue de Genève. Depuis 2005, cette communauté célèbre dans son propre bâtiment, situé juste en face de la chapelle protestante de Mérin dans le village, chapelle qu'elle a longtemps empruntée à l'église protestante de Genève, avec laquelle elle est en dialogue, a des activités communes et même une convention. Cette communauté évangélique, fondée dans les vents du réveil du 19e siècle à Genève, est aujourd'hui membre de la FRE, la Fédération romande d'églises évangéliques, une fédération qui d'ailleurs soutient depuis plus de 10 ans la présence protestante au sein de RTS Religion via MediaPro. Alors voilà pour le contexte institutionnel. Bienvenue dans cette communauté, qui n'est pas une communauté réformée mais évangélique, bien une communauté protestante dans laquelle nous avons plusieurs fois déjà installé nos micros. Ce dernier a travaillé dans les ressources humaines de nombreuses années avant de se tourner vers le ministère pastoral qu'il a exercé en France pendant 2 décennies avant d'être appelé ici à Mérin en 2017. Il prêchera sur la béatitude « Heureux les artisans de paix », une annonce bien centrale évidemment, mais aussi bien exigeante autour de cette paix que nous souhaitons volontiers au passage de la nouvelle année. Une équipe musicale conduira la louange de l'Assemblée, elle est formée de Thierry Battisti, Clément Barral, Thiago Moraes, Elena Duquerte et David Porter au piano. C'est lui qui nous fait maintenant entrer en célébration.
Bonjour, bonjour à tous, bienvenue. À mon tour de vous accueillir ce matin pour ce culte que nous vivons ici à Mérin Village. Nous nous rassemblons ensemble en ce lieu, nous nous retrouvons ensemble aussi par streaming, alors que vous puissiez vous sentir inclus dans ce temps de culte. Et ce matin, effectivement, on a la chance de nous retrouver sur les ondes radio. C'est avec joie que nous voulons partager ce moment de culte ainsi. Merci pour cette opportunité. Merci à tous ceux qui ont travaillé à la préparation de ce culte, un culte normal, entre guillemets, avec quand même quelques contraintes de plus au niveau de l'horaire. Et du coup aussi pour les enfants qui commencent directement dans leur groupe et nous pensons aussi à eux. Ce matin, je vous accueille en mon nom, au nom de toute l'équipe du culte, mais Dieu nous accueille lui-même, lui qui nous a précédés en toutes choses. Il se réjouit de nous retrouver, il se réjouit que nous nous rassemblions en son nom. Ensemble, nous voulons le prier, ensemble, nous voulons le louer, nous voulons proclamer qui il est, Dieu puissant, Dieu créateur, Dieu avec nous, Dieu de paix. Heureux les artisans de paix. Ce sera le thème, effectivement, que Philippe nous partagera. Ensemble, nous voulons nous tenir devant lui et être à son écoute. Et je lis quelques versets du psaume 95. Je vous invite à vous lever pour ça. Oui, le Seigneur est le grand Dieu, le grand roi qui dépasse tous les dieux. Il tient dans sa main ce qui est sous la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre est à lui, ses mains l'ont formée. Approchons-nous de lui pour le remercier. Chantons pour lui avec nos instruments de musique.
Tous verront, oh Dieu, combien
Vous pouvez reprendre place. Toujours dans le psaume 95, « Oui, il est notre Dieu. Nous sommes son peuple et le troupeau qu'il conduit. Il est notre berger. Aujourd'hui, écoutez ce qu'il dit et ne fermez pas vos cœurs comme vos ancêtres à Mériba. » Alors je vous invite à prier pour ce culte. Seigneur Dieu, tu es grand, tu dépasses tout ce que nous pouvons concevoir. Tu tiens toutes choses entre tes mains. Seigneur, tu es notre Dieu, notre berger. Nous sommes ton peuple, ton troupeau. Tu tiens ma vie entre tes mains. Nous nous présentons devant toi ce matin pour ce culte. Nous voulons te consacrer ce temps et nous nous tournons vers toi. Aide-nous à être disponibles à ta parole. Que tu ouvres nos cœurs, nos oreilles, nos pensées, pour que tu sois toujours plus présent dans chacune de nos vies. Que tu accompagnes les enfants dans leur groupe, ainsi que leurs moniteurs. Que tu gardes particulièrement ceux qui souffrent ou sont dans la peine. Et que nous puissions recevoir ton amour et ta paix, pour que nous puissions être témoins de ton amour, de ton pardon, de ta paix, entre nous déjà, et tout autour de nous, jour après jour. Amen.
Nous sommes une maison pour toi, un hôtel pour prier ton nom, un lieu réservé pour ta présence, où tu aimes rester, t'arrêter, demeurer et briller par ta lumière. Tu es l'oasis au milieu du désert, l'eau vive qui coule dans les sources amères, le soleil qui brille au milieu de la nuit, l'aurore qui se lève sur nos vies.
Ce temple est pour ton Saint-Esprit, une habitation pour ta gloire, un endroit où tu viens habiter, maison d'adoration, de louange, de prière, consacré à ton amour.
Tu es l'oasis au milieu du désert, l'eau vive qui coule dans les sources amères, le soleil qui brille au milieu de la nuit, l'aurore qui se lève sur nos vies. Tu es l'oasis au milieu du désert, l'eau vive qui coule dans les sources amères, le soleil qui brille au milieu de la nuit, l'aurore qui se lève sur nos vies. Nous sommes une maison pour toi, un hôtel pour prier ton nom.
L'Éternel est élevé au-dessus de tous les peuples. Sa gloire est plus haute que le ciel. Qui est comparable à l'Éternel, notre Dieu? Dans les lieux très hauts, il siège. Mais il s'abaisse pour voir le ciel et la terre. Ce n'est pas à nous, Seigneur. Non, ce n'est pas à nous que revient la gloire, mais à toi pour ta bonté et ta fidélité.
Ton nom s'élève en
proclame la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu, digne es-tu, agneau de Dieu, l'univers entier proclame la beauté. Dieu de gloire, je t'adore, ton nom célèbre en majesté de mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité.
Dignes-tu de recevoir notre louange, dignes-tu de recevoir nos cœurs, nos vies entières. Dieu, tu as tout créé, tu nous as créés à ton image et tu t'es fait agneau pour restaurer cette image de toi. Merci pour ta bienveillance envers nous. Merci pour ta délivrance et ton salut. En retour, que nous puissions nous tenir à tes côtés, à ton écoute, et suivre tes pas. Amen.
J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui sa paix divine est sur tous ceux qu'on vient à lui, qu'on vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut.
Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom
Marchons en paix, suivons son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut.
Nous allons lire deux textes de la Bible en vue du message, le psaume 34. De David, quand il fit semblant d'être fou devant Abimélec, celui-ci le mit à la porte et il s'en alla.
Je veux bénir le Seigneur en tout temps, que ma bouche ne cesse de le louer. Le Seigneur est ma fierté. Vous, les malheureux, réjouissez-vous de m'entendre le louer.
Proclamez avec moi la grandeur du Seigneur. Ensemble, célébrons son nom. J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes terreurs.
Ceux qui regardent vers lui deviennent radieux. Leur visage n'a plus à rougir. Un malheureux a crié au secours. Le Seigneur l'a entendu. Il l'a sauvé de toutes ses détresses. L'ange du Seigneur monte la garde autour de ceux qui le craignent. Il les met hors de danger.
Goûtez. Et voyez combien le Seigneur est bon. Heureux celui qui trouve refuge en lui. Vous qui appartenez au Seigneur, reconnaissez son autorité. Rien ne manque à ceux qui reconnaissent son autorité. Les riches peuvent éprouver la misère et la faim, mais ceux qui recherchent le Seigneur ne manquent d'aucun bien.
Venez, mes enfants, écoutez-moi. Je vous apprendrai à reconnaître l'autorité du Seigneur.
Si quelqu'un aime la vie et désire vivre heureux, il se garde de médire, il se garde de mentir, il s'écarte du mal, il pratique le bien, il recherche la paix avec persévérance.
Le Seigneur garde les yeux sur les personnes qui sont justes. Il est prêt à entendre leur appel. Le Seigneur s'oppose à ceux qui font du mal, afin d'éliminer leur nom de la terre.
Dès que les justes appellent au secours, le Seigneur entend. Il les délivre de toute leur détresse. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit abattu.
Le juste endure de nombreux malheurs, mais le Seigneur le délivre de tous. Il veille sur les membres de son corps pour qu'on ne lui brise aucun os. Le méchant mourra de sa méchanceté et ceux qui haïssent le juste seront punis.
Le Seigneur sauve la vie de ceux qui le servent. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui trouvent refuge en lui. Je lis encore un verset dans Matthieu 5, le verset 9. Ils sont heureux, ceux qui font la paix autour d'eux, parce que Dieu les appellera ses fils.
Il y a dans l'Évangile, au début du sermon sur la montagne, Matthieu 5, verset 9, cette splendide parole de Jésus. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils et filles de Dieu. La paix. Nous la désirons tous et toutes, n'est-ce pas? Plus particulièrement encore, quand nous sommes submergés par des images violentes, par des propos guerriers, par des situations conflictuelles, la paix, qu'elle vienne à nous manquer, et notre vie se rétrécit soudain comme peau de chagrin. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils et filles de Dieu. Cette parole de Jésus, elle nous invite à nous engager en faveur de la paix, résolument. Mais voilà que certaines collines ont un côté à la pente douce et verdoyante et un autre côté beaucoup plus aride et escarpé. La paix que l'on souhaite est du côté tout en douceur. La paix qu'il faut construire est sur l'autre versant, plus exigeant, le versant nord. Et c'est celui que Jésus nous propose, le versant nord, si l'on veut vraiment lui ressembler. Mais en même temps, Jésus nous dit, nous promet, heureux les artisans de paix. C'est donc que nous n'avons pas à redouter le côté pentu qui nous est proposé. Artisans de paix, littéralement, c'est faiseur de paix. On trouve le même mot pour décrire le métier de l'apôtre Paul, qui était faiseur de tente, faire la paix. Il y a là l'idée d'un travail qui est présente. On imagine parfois ce qui procure la paix comme des gens qui diffusent la paix autour d'eux, comme ça, juste par leur seule présence, par leur seule qualité d'être, de façon un peu magique. Dans son livre « Le parfum », Patrick Susskind raconte l'histoire de Jean-Baptiste Grenouille, un enfant abandonné, solitaire, mais à l'odorat phénoménal. il excelle chez plusieurs maîtres parfumeurs. Mais toute sa vie durant, il cherche, Jean-Baptiste Grenouille, à isoler l'essence parfumée qui diffusera enfin la vie, le bonheur et la joie. Et par des moyens très particuliers, il y parvient. Qu'il mette quelques gouttes de ce parfum, et voilà que tout le monde se pâme de joie et de bonheur à son passage. Et c'est ainsi qu'on imagine parfois ce qu'est procurer la paix. Être quelqu'un qui irradie tellement la paix qu'elle est communicative, irrésistible, magnétique. Mais Jésus, lui, nous invite à être faiseurs de paix, dans un sens beaucoup plus artisanal, où l'on retrousse les manches en faveur de la paix. Le faiseur de paix travaille à la paix. Le faiseur de paix façonne la paix. Il lui consacre de l'énergie, de l'attention, de l'intelligence, de la volonté. Il y travaille. Le faiseur de paix doit aussi tenir compte de la réalité qui l'entoure, des personnes, des circonstances, nouer ensemble plusieurs brins de paix, favoriser des espaces pour la paix et renoncer à ce qui contribue au conflit. On ne diffuse pas la paix comme par enchantement ou par magie. Il faut y travailler. Être artisan de paix demande de la volonté. D'autres verbes sont employés dans la Bible en relation avec la paix. Le psaume 34, dont nous avons écouté la lecture il y a quelques instants, au verset 15, parle de rechercher la paix ou de la poursuivre la paix. Rechercher la paix dans le contexte exprime la vigilance à mettre en œuvre quand on est en situation concrète. Rechercher la paix, pas en théorie, mais dans la pratique. Tant d'attitudes autres nous viennent naturellement, n'est-ce pas, qui produisent tout le contraire de la paix. Le psaume parle au verset 14 de la langue qui dit du mal des autres ou des lèvres qui profèrent le mensonge. Poursuivre la paix ne signifie pas courir après elle sans jamais réussir à l'atteindre, mais c'est plutôt persévérer sur la voie de la paix, même si les circonstances ne sont pas favorables, même si les circonstances sont effrayantes. Poursuivre la paix. Le psaume 34, il renvoie d'ailleurs à la période de la vie de David où il a été injustement chassé, traqué par Saül qui voulait le tuer. Et pendant tout ce temps, David a poursuivi la paix. Il a persévéré sur la voie de la paix. Deux fois, il a épargné Saül alors qu'il aurait pu se venger et qu'on le pressait d'ailleurs de le faire. Mais il est resté droit en parole et en acte, poursuivant la paix. Cela nous rappelle, je crois, que la paix, c'est quelque chose de fragile, qu'un acte, un seul violent, peut venir briser un vivre ensemble que l'on pensait acquis. Une parole blessante peut fissurer en un mot une harmonie patiemment construite. Un mensonge, une trahison peuvent détruire en un instant une relation de confiance. La paix, c'est une fleur magnifique, mais elle est délicate. Il faut la préserver. Être artisan de paix, c'est y veiller encore et toujours, y compris dans les conditions les plus adverses et les plus périlleuses. Un autre verbe est employé en relation avec la paix, et c'est le verbe semer. Semer la paix. Jacques 3, verset 18, « Le fruit de la justice est semé dans la paix par les artisans de paix. » Le fruit de la justice est semé dans la paix par les artisans de paix. Ce verset nous rappelle qu'on ne peut pas séparer la paix de la justice. Et par justice, on entend ici une attitude en accord avec ce que Dieu est, avec ce que Dieu demande. Le fruit de la justice est semé dans la paix par les artisans de paix. Jacques vient de parler de la sagesse de Dieu, une sagesse qu'il qualifie de modérée, de conciliante, de pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité, sans hypocrisie. C'est ce fruit de la justice que les artisans de paix sèment pour produire la paix. Cette image de semaille dit que la paix sera le fruit de ce que chacun, chacune y apporte. Une relation riche de plusieurs qualités permettra une paix de belle qualité, une harmonie forte, bienfaisante. Mais une paix bricolée, une relation bricolée superficiellement, conduira à une paix superficielle et à bon marché. Être artisan de paix, c'est veiller à la qualité de ce que nous semons. La paix, pour donner toutes ses senteurs, a besoin de bonté, de sincérité, de modération, de droiture, de vérité et d'équité. La paix au sens biblique, ce n'est pas simplement l'absence de conflit. On peut toujours éviter des conflits en s'ignorant ou en s'inspirant mutuellement de la crainte. La paix que nous sommes invités à développer, elle est le fruit d'une relation dans laquelle nous sèmerons aussi richement que possible pour produire un beau fruit. L'image des semailles, elle parle aussi de fragilité. Il y a parfois des échecs, il y a parfois des richesses piétinées, il y a parfois des moissons qui peinent à aboutir. Être artisan de paix, c'est oser semer là où il y a déjà eu des dégâts. Et c'est le faire avec espérance, même si l'on tremble un peu ou beaucoup. Jésus n'a pas restreint le champ de son invitation. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils et filles de Dieu. Son invitation, elle s'applique à toutes nos relations, mais elle se traduira différemment selon les circonstances. Je suis appelé à être artisan de paix, là où il n'y a pas de conflit. J'essaierai de régler aussi vite que possible les situations qui pourraient engendrer des conflits. Je travaillerai à l'approfondissement et à la consolidation de relations de confiance et de vérité. Il vaut la peine d'y veiller. Quand les relations sont encore intactes, on est alors sur le versant le plus agréable de la paix. On y travaille tout en profitant de ce qu'elle nous apporte. Viennent ensuite les situations déjà abîmées par le conflit. Et il devient alors très exigeant d'être ou de devenir artisan de paix. Si l'on est soi-même partie prenante dans une difficulté relationnelle, il faut beaucoup d'humilité, de clairvoyance et d'honnêteté. Être artisan de paix pourra signifier faire le premier pas vers l'autre, s'exposer un peu. Cependant, on gardera toujours le souci de la justice et de l'équité. Il ne s'agit pas, au nom de la paix, d'accepter n'importe quoi. Il faut se préparer à reprendre l'ouvrage à plusieurs reprises, et on est alors sur la pente exigeante de la paix, le versant nord qui demande des efforts soutenus. Mais les victoires sont encore plus belles. Quelles résolutions concrètes alors peuvent découler de cette invitation de Jésus à être artisan de paix? J'en vois trois. La première, c'est d'accepter que notre rôle dans toutes les relations que nous établissons est celui de l'humble artisan, de l'humble artisane. Nous n'avons pas à nous rêver d'être comme le pacificateur ou le réconciliateur universel. Notre place est celle de l'humble artisan, patient, au cœur même de l'action. Prendre ce texte au sérieux nous amènera alors à nous arrêter pour faire le point. En quoi ai-je été constructif? Où ai-je manqué? Qui aurait-il à réparer? Où est-ce qu'on pourrait avancer encore? Une deuxième résolution serait celle de la constance. Une pensée peut nous y aider, et c'est une réflexion assez remarquable, je trouve, du chanteur de reggae Bob Marley. Deux jours avant, en concert pour la paix qu'il devait donner en Jamaïque, il a été victime d'une tentative d'assassinat par un groupe d'extrémistes. Une balle dans un bras, une balle dans la poitrine, 5 balles dans la cuisse. Mais le jour du concert, Bob Marley est présent. Et on lui demande pourquoi. Écoutez sa réponse. Les personnes qui veulent rendre le monde encore plus mauvais qu'il n'est déjà ne prennent jamais de congé. Pourquoi en prendrais-je? Nous sommes témoins, chaque jour que Dieu fait, des forces qui s'abordent ou fragilisent la paix. Pas de congé, c'est vrai. Opposons à cela la résistance douce d'une patience à construire et à consolider la paix. Une troisième résolution serait de veiller sur ce que nous sommes. On ne saurait offrir ce que l'on ne possède déjà. Nous ne pourrons travailler à la paix que si nous sommes pacifiés intérieurement. Jésus, notre paix, nous donne cette paix en restaurant l'harmonie avec notre Créateur et en cultivant ensuite la communion avec Dieu par la méditation de sa parole, par la prière, par le service aussi. Sa présence en nous devient source de paix et force pour la paix. J'arrive à ma conclusion. Qu'est-ce qui peut nous motiver dans la voie de la paix? Qu'est-ce qui peut nous motiver? Ah, il y a bien sûr les fruits de la paix, le bonheur de relations limpides où règne l'harmonie, où règne la confiance, où règne l'amitié, la fraternité. Et il vaut la peine d'y travailler, c'est une motivation. Toutefois, Jésus nous oriente vers une autre perspective. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils et filles de Dieu. Votre œuvre de paix ne sera jamais une œuvre solitaire, mais une connivence avec le Dieu de la paix, une œuvre à ses côtés. Jésus, le Fils unique du Père, en venant vers nous, a été l'artisan de paix au sens plein du terme. Il est l'artisan de notre salut. Il a établi un pont sur le plus effrayant abîme, celui qui nous séparait de Dieu. Il a fait le premier pas, il s'est rendu vulnérable, il a surmonté l'inimitié pour nous réconcilier avec Dieu. Il a tout pris sur lui pour rendre la relation possible. Artisan de paix. Jésus est notre paix, Éphésiens 2, verset 14. Nous qui étions loin, nous pouvons devenir désormais proches, tout proches, fils et filles de Dieu. C'est donc que l'harmonie avec Dieu est possible. Elle nous est offerte. En Jésus-Christ, Dieu nous a montré à quel point il veut être notre Père. Celle-ci englobe la vie présente, l'aujourd'hui, le maintenant, comme la vie éternelle. Parce que le jour où le Seigneur fera toute chose nouvelle, il créera la paix et l'harmonie en abondance. Ésaïe 66, verset 12. « Voici que je dirigerai vers Jérusalem la paix comme un fleuve et la gloire des nations comme un torrent. Comme un homme que sa mère console, ainsi moi je vous consolerai. Oui, vous serez consolés, vous le verrez et votre cœur sera dans la joie. » Au psaume 85, verset 11, nous lisons qu'un jour, la justice et la paix s'embrasseront. La vérité germera sur la terre. En attendant ce grand jour, dans ce monde-ci déjà, dans le contexte que vous et moi nous connaissons, avec les exigences qui fondent ce contexte, heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils et filles de Dieu. Amen.
Je voulais partager quelques mots en lien avec cette invitation à construire la paix, à être artisan de paix. Moi qui suis plutôt une personne calme, je me suis bien retrouvé dans certains points, patiente, je pense à l'écoute des autres. J'ai des fois de la peine avec les conflits, j'ai tendance à les éviter. Et là, ce n'est pas toujours très positif, parce que dans notre quotidien, on n'y échappe pas. Dans la famille, avec les voisins, même dans l'église. Et peut-être encore plus au niveau du travail. Et là où je travaille, pendant toute une période, il y a eu pas mal de tensions. Un nombre plus ou moins important de collègues, une partie de la direction, était en conflit. Mon questionnement était justement de savoir comment me positionner personnellement, même si je n'étais pas directement concerné, mais pas seulement personnellement, mais aussi en tant qu'équipe de collègues dans une structure hiérarchique. Comment se positionner quand on est confronté, quand on nous partage des dysfonctionnements plus ou moins importants, plus ou moins graves. Et des dysfonctionnements, il y en a toujours. Mais lorsqu'ils s'accumulent et que des collègues sont en souffrance, cela se répercute également sur l'ensemble des collaborateurs. Comment être un instrument de paix dans ce contexte ? Alors de mon côté, j'ai essayé d'être à l'écoute, d'être dans le dialogue avec mes collègues, avec la hiérarchie. On a essayé ensemble, pas juste moi, de construire, de trouver des solutions. Et c'est bien. Mais pourtant, ça n'a pas suffi. Alors comment être un instrument de paix dans ce contexte ? Ben, il y a d'autres choses qui ont dû être mises en place, d'autres structures qui ont dû intervenir. Il y a des changements qui ont été effectués. Et en parallèle, il y a un moment où il a fallu prendre position, arrêter le dialogue et se dire non, ça ne va plus. Être un instrument de paix, j'essaie d'apprendre à le faire. Mais pour moi, ce n'est pas facile dans ces situations. Le dialogue, la conciliation, c'est certainement un bon début, mais il faut aussi apprendre à prendre position et à agir lorsque cela est nécessaire. Alors que Dieu m'accorde, que Dieu nous accorde sa sagesse dans ces situations. Debout pour la bénédiction.
Et j'emprunte à l'apôtre Paul le mot d'envoi de bénédiction. En Philippiens 4, depuis le verset 5, « Que votre bonté soit connue de tous. Le Seigneur vient bientôt. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin. » Et faites-le avec un cœur reconnaissant. Et la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées unis avec Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, portez votre attention sur tout ce qui est honorable et digne de louange, sur tout ce qui est vrai et mérite d'être respecté, tout ce qui est juste et pur, tout ce qu'on peut apprécier et estimer. Mettez en pratique ce que vous avez appris et reçu de moi, Paul, ce que vous m'avez entendu dire et vu faire. Et le Dieu de la paix sera avec vous. Alors qu'il vous accompagne pour cette semaine, tout ce qui vient, tout ce qui s'impose à vous, que le Dieu de la paix soit avec vous. Et allez en paix. Un bon dimanche.
Merci beaucoup. C'est bon, l'antenne a été rendue. Merci d'avoir joué le jeu en venant un petit peu plus tôt, en étant joyeux dans la louange. Ça vaut la peine. On remet ça la semaine prochaine. Merci beaucoup aux musiciens. Je laisse la place à Joanne pour les annonces et puis on termine le culte comme ça. Étant donné qu'on a déjà été bénis.
Bon, comme l'antenne est rendue, je peux dire des bêtises, ça va bien. Alors, un grand merci à Michel Kocher et à toute son équipe, parce que c'est une occasion pour l'Église aussi de témoigner au-delà de nos murs. Il n'y a pas seulement le streaming pour ceux qui nous suivent, mais là, on touche plus de monde. Et ça fait partie aussi de cette évangélisation qu'on ne voit pas, mais qu'on peut faire. Et ça ne vous a pas demandé beaucoup d'efforts. J'ai remarqué que de venir à 9h45, c'était possible. Donc, David, si tu as des nouveaux chants à apprendre, on peut faire des répétitions un quart d'heure avant. La prochaine fois, ça t'a pris note. Je ferai les annonces nécessaires si besoin. Mais merci à tous ceux qui ont œuvré, parce que c'est vraiment un timing précis. Merci aussi à Philippe de contenir son discours et son prêche, parce que c'est pas facile pour lui. Non, merci à chacun pour cette mise en place. Déjà, nous en interne, mais aussi à l'équipe de MediaPro. C'est pas mal de travail en sous-marin, mais c'est appréciable. C'est aussi un peu un projet d'église qui rassemble aussi autour de ces cultes radiodiffusés. Peut-être pour les annonces, il y a encore Roger qui avait deux, trois petites choses avant que je passe à la suite.
Oh, c'est juste une petite chose. Quand on trouve une petite perle, on a envie de vous en parler. Hier soir, avec Mireille, on a été écouté en concert à Bernay. C'est un concert de gospel. Il y a un livre qui vient de sortir, publié par Labor et Fides, c'est Black Church. C'est de l'esclavage au Black Lives Matter, pour ceux qui sont intéressés. Alors, c'est un vernissage du livre, mais accompagné par deux sœurs noires américaines. Et ça dégage, hein, ça bouge. Et c'est un peu une playlist de toute cette période de l'esclavage à Black Lives Matter avec tous les chants traditionnels en gospel accompagnés par un super pianiste. Ça vaut la peine. Il y a un concert à 5h à l'espace Madeleine cet après-midi. Ceux qui veulent plus de détails, j'ai le papillon ici. Ça vaut la peine.
Et puis, comme vous l'avez entendu la semaine passée, le nouveau programme est disponible sur les petits présentoirs à l'entrée. Ne cherchez plus le mémo, il n'existe plus. Ensuite, ce mardi 17 janvier à 20h15, la réunion de prière communautaire. Mercredi, le CTT, le groupe de jeunes 15-25 ans à 20h. Vous pouvez venir plus tôt et rester plus tard aussi. Et puis, dimanche prochain, comme ça a été annoncé, on fait le même exercice. On vient plus tôt, on laisse les enfants en bas directement, et puis on se chauffe la voix et on a le sourire. Il paraît que ça change les chants. J'étais heureux de l'apprendre. Et puis, je ne sais pas si je laisse peut-être la parole à Michel Kocher.
Merci. Ça fait plaisir d'avoir l'impression que j'ai été compris et bien reçu. Mais c'est un plaisir que je partage avec vous, n'est-ce pas? On se voit une fois tous les 3-4 ans, je ne sais pas. Et je sais que de pouvoir rencontrer une communauté venant du ministère qui est le nôtre à la radio, on peut vous apporter quelque chose. C'est des petites choses. Mais la question du sourire et de la joie, de la célébration, c'est vrai. Et je vous le dis d'autant que ce matin, j'étais le premier auditeur avec mon collègue de la technique RTS, mais aussi vous là-bas. Et comme premier auditeur, évidemment, j'ai toujours le plaisir... Quand je suis dans ce moment-là, les gens disent « mais c'était comment ?» Moi, je peux vous répondre comment c'était, pour l'auditeur, parce que j'étais le premier auditeur. Eh bien, c'était très bien. C'était très bien, mais qu'est-ce que ça veut dire, être très bien pour un culte radio? Je vais vous répondre. Je ne me prononce pas sur la prédication, qui était évidemment très bonne, bien nourrissante, bien solide. D'après ce que j'ai compris, pas trop longue pour vous. C'était quand même 18 minutes, hein. Il n'y a pas que les pasteurs réformés qui prêchent longuement, disons. C'était 20 et demi, 18, c'était sur le papier. Moi, je n'ai pas chronométré, je laisse le prédicateur, évidemment, libre du temps qu'il a à disposition, mais évidemment, le temps, plus la prédication en prend, moins il y en a pour vous ou pour le reste. Mais ce matin, c'était bien équilibré. Donc, je ne me prononce pas sur la prédication, mais vous avez compris que je me prononce sur votre participation. Parce que ça, c'est vraiment la clé pour les cultes radio. Et ce matin, c'était particulièrement bien réussi, je vais vous dire pourquoi. Parce que vous avez compris au départ que l'équilibre entre tout le dispositif de micro amplifié ici, la régie son là-bas et la nôtre, c'est un équilibre très difficile. qui se fait volontiers aux dépens de la radio. C'est-à-dire qu'on met une bonne sono ici, puis c'est super, on entend bien, puis à la radio, on entend un brassage de son. Et ça, évidemment, ce n'est pas ce qu'on souhaite. On souhaite de faire en sorte que les auditeurs qui sont ici avec nous, ils sont pris, mais ils ont aussi de la place eux-mêmes pour chanter avec vous. Donc, ils ne sont pas au concert, ils sont au culte. Et ça, ça fonctionne, et ça a très bien fonctionné ce matin, de la façon suivante, c'est-à-dire que les chants du début, enfin le début des chants, on a entendu le soliste, et puis juste derrière, assez rapidement, la communauté est venue. Et c'est la communauté qui nous a donné la main pour que nous, les auditeurs et auditrices, on chante avec vous. Donc on n'était pas au concert, on était au culte. Je vous invite à le réécouter sur le site celebré.ch ou sur le site de l'RTS, vous verrez, c'est magnifique. Et du coup, alors, je dirais la ferveur qui est la vôtre, qui est aussi une signature de la communauté ou des communautés évangéliques, elle était au service de cette louange dans laquelle l'auditeur peut rentrer. Donc votre ferveur, elle n'était pas enfermée en elle-même, elle était au service des auditeurs et auditrices. C'est pour ça que je vous dis ce matin, vraiment, mission accomplie. Bravo à vous, évidemment, bravo à votre musicien parce qu'il comprend et il connaît tout ça. Et le coup des bâillements en début de séance, alors ça, franchement, je vais le refaire parce que ça, c'est génial. Mais je vous assure que ça fait la différence. Vous souriez maintenant, vous avez souri avant, et ce sourire, on l'a entendu. Donc voilà, merci infiniment, c'était un plaisir d'être avec vous ce matin. Ce n'est pas moi qui reviendrai dimanche prochain, peut-être serai-je auditeur à la radio, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, je vous souhaite une bien belle année. Cette année, pour nous, à la radio, elle est exceptionnelle parce que nous fêtons les 100 ans du culte radio. Un siècle de présence radiophonique. Nous ferons une belle célébration à Morges, le 14 mai. Et puis nous rediffuserons des petits extraits, des grandes voix qui ont fait le culte radio sur un siècle. Donc si vous êtes une fois ou l'autre auditeur ou auditrice, les 6 prochains mois, vous aurez quelques extraits de grandes voix du culte radio et puis la possibilité d'accéder aux archives. Je profite que j'ai le micro parce que ça me permet de dire un certain nombre de choses qui ne sont pas de la promo mais qui sont une manière de comprendre le sens de notre présence dans le service public et aussi la mémoire de notre tradition protestante. On est en train d'arriver à une période où on a des archives de voix. Ce n'est pas des archives papier, c'est des voix. Et on s'aperçoit aujourd'hui que ce soit des voix ou de la vidéo, le public aujourd'hui est très intéressé à consommer ça. C'est-à-dire que de cette façon-là, il est relié au passé. Le site le plus fréquenté de la RTS, ce sont les archives. De loin! Pas les petites bricoles sur TikTok, que sais-je. Ok, ça fonctionne, évidemment. Mais les archives, pourquoi? Parce que ça nous met en lien, ça nous situe dans une tradition de transmission. Donc voilà, on a des trésors d'archives, vous en êtes aussi, vous en serez aussi d'ailleurs, certainement, et on va essayer de valoriser ces voix parce que ce sont ceux qui nous ont précédés, qui nous ont transmis à la fois l'évangile, à la fois le sens de la fidélité et aussi la mission de continuer à transmettre. Donc voilà, je vous fais un petit cours de radio, mais tout ça pour vous dire merci, pour vous dire le plaisir et l'importance que ça a de pouvoir travailler avec vous ce matin et dimanche prochain aussi. Encore un bon dimanche à chacun et un grand merci.
Juste vous rappeler que notre Église vit grâce à vos dons et vos générosités et que vous trouvez tout à la sortie, aux besoins. Merci et bon dimanche. Merci.